Bienvenue à cette seconde partie du discours. Toujours au cœur de ce chantier qu'est la compréhension des désirs et où ils nous mènent, les désirs sains, les désirs qui ne sont pas sains, le relatif, l'ultime. Et donc dans le discours précédent, je disais que je pense que les désirs qui viennent plus de notre monde construit sont différents des désirs qu'on va avoir quand on est plus posé au cœur de nous-mêmes. Qu'il va y avoir une différence dans la nature et dans la qualité des désirs qui nous viennent quand on est dans notre identité superficielle, dans notre identité conventionnelle. Et ça déjà, c'est quelque chose. Comprendre ce que veut dire une identité conventionnelle et qu'est-ce qui éventuellement de nous n'est pas de l'identité conventionnelle, c'est déjà un chantier en soi. Tout ça en fait est à explorer, à essayer de comprendre. L'identité conventionnelle, par exemple, une petite piste, mais on va pas aller vers là, mais l'identité conventionnelle, c'est pas, on pourrait imaginer, c'est plus facile peut-être de comprendre par rapport à un pays comme la France. La France est une identité conventionnelle, c'est une création de l'humain. La France n'existe pas et n'est pas perceptible par les cinq sens. Les frontières sont des frontières qui ont été délimitées à une certaine époque, qui n'étaient pas là à une autre époque. Le nom France n'était pas là à une autre époque. Il y avait des gens sur ces territoires avant que ça soit appelé France, et des gens, des animaux et une terre vivante et tout ça. Et tout ça n'était pas France. Et puis un jour, ça a été déterminé et accepté par la population intérieure que c'était France. Et les autres pays aussi réfèrent à ça comme France. Du coup, la France a une forme d'existence, une identité, mais qui est construite, qui est quelque part factice, qui dépend dans le temps, et un jour la France n'existera plus, et ce sera autre chose qui existera, mais ce qui se passe sur ce territoire sera toujours, il y aura toujours des choses qui se passent sur ce territoire, il y a des choses qui existent en France qui ne sont pas France. Et c'est pareil pour notre identité. Nous aussi, on a un nom, un métier, une manière d'être, des qualités, des capacités, et tout ça, mais c'est tout ça, c'est plein de niveaux, en fait. Des niveaux qui ont été acceptés et dont on a besoin en fait pour pouvoir fonctionner vis-à-vis d'autres et les autres réfèrent à nous comme ça et nous on réfère à nous-mêmes comme ça. Mais en fait c'est quand cet aspect de l'identité devient trop proéminent et qu'on ne réfère plus et qu'on ne se connecte à nous que à travers cette identité-là que ça devient problématique, cette identité construite. Et ce que je dis, c'est que alors les désirs qui vont nous venir quand on habite que cette identité construite, c'est-à-dire que dès le moment où on se réveille, en fait, il y a toute cette histoire qui revient, et on est cette histoire, et on est que cette histoire, à ce moment-là, on va allumer le feu, comme un acte pratique, sans avoir aucune relation plus profonde avec le feu, par exemple. Parce que notre base d'action est cette identité construite. Et on ne connaît de nous que cette identité construite. Et on est pressant de nous que cette identité construite. De là vont venir des types de désirs qui vont être destructeurs. De vouloir chercher la satisfaction à cet endroit-là va amener tout un tas de désirs quelque part pervertis par rapport à des désirs qui sont plus profonds. Donc on lâche toujours. En fait, quand on dit lâcher prise sur le désir, on va toujours lâcher un désir pour un autre plus profond. Par exemple, on va lâcher le désir de se resservir parce qu'on a le désir d'être en bonne santé peut-être, ou parce qu'on a le désir de ne pas demander trop à la planète et qu'on sait que si on mange tous trop, ben on demande trop à la planète. Ou on va lâcher le désir d'acheter tel vêtement parce qu'on sait qu'à la manière dont il est produit, il n'y a pas de justice sociale. Hein, il y a une profonde injustice dans la manière dont ce vêtement qui me plaît énormément en fait, mais je sais qu'il est qu'il, la manière le pays où il est produit en fait et à ce prix-là, je sais quelque part que je soutiens un système dans lequel je ne crois pas. Donc par désir de justice, je vais lâcher mon désir d'acheter ce vêtement. Donc on lâche un désir pour un autre, pour le désir de justice qui est un désir plus profond, on va lâcher un désir qui est plus superficiel. Tout ça, ce jeu des désirs de distinguer quels sont les désirs sains et donc les désirs qui mènent à la joie et à l'amour et à l'unité, distinguer ces désirs des désirs qui créent de la souffrance, hein, dans le sens si acheter le vêtement est un désir qui quelque part crée de la souffrance, et donc lâcher un désir qui va créer de la souffrance pour aller vers un désir qui crée de l'unité, de la justice, c'est le travail de la sagesse, c'est de distinguer en fait, de distinguer. Tout ça se passe dans le monde relatif. Tout ça, c'est le monde relatif. L'ultime, comme on l'a vu, et c'est parce que cette distinction-là aussi, elle est très importante. L'ultime, c'est ce que nous, je relis ce que je lisais au premier discours et ce que je lis régulièrement dans mes discours, c'est le Saint Son, le troisième patriarche zen, qui disait la grande voie, donc le Tao, la voie du Tao, n'est pas difficile pour ceux qui n'ont pas de préférence. Lorsque l'amour et la haine sont tous deux absents, tout devient clair et sans déguisement. Lorsque l'amour et la haine sont absents, tout devient clair et sans déguisement. Ça, c'est un discours ultime. Il n'y a plus de différence. Et c'est tout un monde de la spiritualité dans ces phrases-là. Ça ouvre l'accès à tout un espace de nous-mêmes au-delà de nous-mêmes. Ça, c'est ultime. Mais c'est pas du tout ce que je dis. Moi, je ne parle pas. Tout mon discours depuis ce matin n'est pas du tout du côté de l'ultime. Et je pense que c'est important de distinguer ça dans tous les enseignements qu'on écoute. Est-ce que c'est un discours relatif ou est-ce que c'est un discours ultime? Ça, aujourd'hui, il n'y a rien d'ultime dans mon discours. Tout est relatif. On lâche un désir pour un désir plus profond. C'est complètement relatif. On verra peut-être dans la troisième partie. On ira plus vers l'ultime aussi, qui est très beau. Mais souvent, on a tendance, dans la spiritualité, à avoir une inclinaison vers l'ultime. Et je pense que c'est problématique, en fait. Le relatif est très, très important. C'est ce que je disais au début. Souvent, le désir, dans la spiritualité, on va dire, ben voilà, le désir est impermanent. Hop, on peut. Et quand on voit le désir comme impermanent, ça peut permettre de le lâcher. Ok, mais du coup, ça n'honore pas en fait le mouvement du désir et dans sa complexité et dans sa nécessité pour être vivant et pour faire les bons choix. Donc ici, tout ce discours reste basé sur dans l'univers spirituel relatif, on va dire. Donc on a compris que le simple fait d'être informé de ce qui crée de la souffrance et de ce qui n'en crée pas pour nous-mêmes ou pour autrui, ne suffit pas en fait à donner l'énergie du changement. Hein, c'est le modèle du déficit d'information. On croyait que si on donnait suffisamment d'informations, à ce moment-là, les gens pouvaient faire les bons choix. Mais même avec suffisamment d'informations, on ne fait pas forcément les bons choix. Il y a besoin d'autres ingrédients. On a vu dans la méditation guidée précédente un chemin en fait qui va aider peu à peu incarner dans notre quotidien, dans notre réalité, nos aspirations profondes, donner une place. Dans la méditation guidée elle-même, il y avait un ingrédient de la nécessité d'une manière de pratiquer, qui est en fait d'actualiser et de rendre plus conscient et de faire venir au devant de notre conscience ce qui compte vraiment pour nous. Parce que pris dans notre quotidien, en fait, c'est pas une question que naturellement on se pose souvent. C'est pas quelque chose qu'on ramène à notre conscience encore et encore et encore. Je ne sais pas ce que vous aviez choisi comme qualité profonde, mais ces qualités profondes que vous avez choisies, c'est quelque chose qui sont des aspirations. Peut-être certains d'entre vous ont choisi, je désire une nouvelle voiture. Et pourquoi pas ma foi, hein. Mais c'est ce genre de pratique ne va pas trop mener vers ces désirs-là, mais plutôt vers des choses qui comptent vraiment pour nous. Et donc en se posant la question régulièrement, et ça peut être fait dans le cadre de la pratique, et souvent ça se fait dans le cadre de la metta, de la bienveillance, on donne de l'attention et même j'irai plus loin, on donne de l'attention à la qualité, mais on la vit quelque part. On peut sentir la qualité de patience si c'est la patience qu'on souhaite. On peut presque, parfois, pour certaines personnes qui pensent plus avec des images, on peut voir des situations dans lesquelles on est patient. On peut sentir ce que c'est dans le corps d'être patient. Ou si c'est le courage, on peut sentir. Ou la discipline. On peut sentir la qualité de discipline qui nous manque, on peut la sentir en nous à ce moment-là. On peut l'incarner pour un moment parce que on l'invoque en nous, parce qu'on la connaît déjà. Les qualités qu'on invoque, on les connaît déjà. Elles ne sont juste pas assez actualisées dans notre quotidien. Dans notre quotidien si éclaté, dans lequel notre attention est demandée dans toutes les directions en même temps. Et là, on se donne l'occasion de faire l'expérience de ce que c'est la discipline. On en sent la texture dans notre méditation. C'est extraordinaire. On l'invoque et on ressent. Pareil, la bienveillance. Quand on fait les méditations de bienveillance, quand on appelle les personnes qu'on aime à notre esprit et qu'on leur souhaite d'être heureux, en bonne santé, et puis quand on appelle des gens avec qui on a même des difficultés ou des inconnus, on peut ressentir une humanité commune. On peut ressentir vraiment un lien et parfois ressentir vraiment de l'amour. Donc on invoque ces qualités et on en fait l'expérience, assis sur le coussin. Et là, en fonction de comment on fait l'expérience, on se transforme. Nos expériences nous transforment tout le temps. Tout le temps, c'est ce que nous disent les neurosciences. Le cerveau se transforme constamment, de seconde en seconde, jusqu'au dernier souffle. Hein, c'est ce principe de neuroplasticité. C'est jusqu'au dernier souffle, le cerveau se transforme en fonction des expériences vécues. Et les expériences vécues, elles peuvent être complètement imaginaires. Le cerveau ne fera aucune différence, en fait. Complètement imaginaires, elles sont vécues quand même. Elles sont vécues. Dans un moment où on se sent lié avec une personne et on lui souhaite des belles choses, on vit quelque chose, on vit une expérience, on sent le cœur, on sent les émotions, on sent l'authenticité. On vit l'expérience. Et donc, on fait baigner notre cerveau dans une certaine atmosphère, on fait baigner notre esprit dans une certaine atmosphère, et de là, il se transforme. Et par rapport aux vertus, par rapport aux qualités profondes auxquelles on aspire, on peut quelque part les goûter et les incarner en méditation et les apprendre. Et donc ça, c'est une voie essentielle dans le principe de transformation, parce que c'est autre chose d'avoir le goût d'actualiser ces qualités en nous, plutôt que de savoir qu'on devrait être plus patient. Ou même de se dire qu'on voudrait être plus patient quand on est là et puis il se passe des trucs, on se dit, ah, quand même, t'aurais pu être plus patient. Et c'est vrai quelque part. C'est un regard, c'est une des voies du changement, c'est ce type de connaissance. Mais là, on fait une connaissance, une expérience directe qui nous transforme en profondeur, qui nous apprend, en fait, à faire l'expérience d'eux et à reconnaître en nous déjà cette qualité qu'on désire. On met notre attention sur la sensation de la patience, de la discipline, de l'amour. Et on en fait l'expérience. Partout où on met notre attention, là où se trouve notre attention, c'est de ça qu'on fait l'expérience. Hein? Là où se trouve notre attention, c'est de ça qu'on fait l'expérience tout le temps. Mon attention va dehors, l'expérience, ben c'est la montagne et les arbres. Mon attention va dans une pensée, ben mon expérience, c'est ce qu'il y a dans la pensée. Là où va notre attention, c'est ça dont on fait l'expérience. Et là où va l'attention, c'est ça qu'on apprend. Hein, pour apprendre, il faut poser notre attention sur quelque chose et du coup, on apprend de cette chose, on apprend à connaître cette chose. Et donc là, on fait ça dans la pratique. Et quelque part, c'est une forme de prière aussi. Ah, il y a des magnifiques prières dans lesquelles la personne qui prie invoque ses qualités. Donne-moi la force d'être comme ceci. Donne-moi la force d'amener la paix où il y a la haine. Donne-moi la. Et donc, c'est une forme de prière aussi pour ceux d'entre vous qui ne sont pas réactifs à la tradition chrétienne et le mot prière, ce qui a été longtemps mon cas et je me pacifie avec ça. Mais c'est une forme de prière. On ne prie pas un Dieu, et puis on pourrait aussi, hein, mais là, on invoque cette qualité en nous et on en fait l'expérience. Là, du coup, on est, par rapport à ce problème du déficit d'information, on comble en fait, on amène une autre manière de relationner à ce qu'on sait qu'on devrait, à ses aspirations profondes. La pratique de la bienveillance, la pratique elle-même de la bienveillance, metta, on l'a déjà vu ensemble, certains vous la connaissez peut-être d'ailleurs, la pratique de la bienveillance va être aussi une voie royale pour développer les vertus, pour d'ailleurs, c'est tout ça, c'est une seule et même chose à chaque fois. Développer les vertus veut dire affaiblir l'ego. Hein? L'ego, c'est quand l'ego est trop fort, alors il veut tout pour lui, par exemple, et du coup la vertu de justice ne peut pas exister pour un ego trop. Quand on est trop centré sur l'ego, quand on n'existe que à travers cette identité-là, la notion de justice ne peut pas. Mais si on passe du temps dans nos méditations à souhaiter le bonheur et la sécurité aux gens qu'on connaît, aux inconnus, aux animaux, à la planète, ben peu à peu notre conscience de la maltraitance animale, notre conscience de l'écologie grandit et cette vertu de justice du coup en est nourrie. Ça influe sur nos choix. Je touche un petit peu à différentes pratiques ici qui toutes nous aident à favoriser l'avènement de nos aspirations profondes. Une autre pratique, un autre axe d'exploration, c'est la conscience de la mort. La conscience de la mort va actualiser déjà de plusieurs manières. Donc un petit passage de Rumi. Le prophète a dit que nul de ceux qui ont quitté ce monde n'éprouve de chagrin, de regret et de déception à cause de la mort, oh non, mais il éprouve sans regret d'en avoir manqué l'opportunité, se disant « Pourquoi n'ai-je pas fait de la mort mon objet, qui est l'objet de fortune et de toute provision ? Et pourquoi ai-je fait pendant toute la vie de ces fantômes qui se sont évanouis à l'heure du destin l'objet de mon attention ?» Donc en fait, la conscience, ce que je comprends de ce texte, c'est que si on vit, plus on vit avec la conscience de notre finitude, avec la conscience qu'à un moment on va mourir, tout bêtement, tout platement en fait. C'est étonnant en fait qu'on puisse vivre sans avoir, il n'y a rien de morbide en fait, mais de vivre sans avoir cette conscience. Alors on vit sans trop prêter attention. Alors on peut remettre à demain des choses qu'on ne devrait pas remettre à demain, et notamment cette nécessité d'actualiser et de vivre en accord avec ce qu'on pense profondément. Plus on est conscient que notre vie n'est qu'un bref éclair, plus on va ressentir l'importance de coller à ce qu'on sent profondément. C'est un peu problématique la conscience de la mort, je pense, dans notre culture, parce qu'on a une relation à la mort qui est très très particulière. Je pense qu'on a une relation, culturellement, une relation à la mort qui est dramatique, parce que on a une relation à la vie qui est dramatique, parce que on considère la vie de culturellement, depuis quelques centaines d'années, comme uniquement un processus d'évolution de la matière dans le temps. Et du coup, la mort ne peut être que la fin finale et un échec total. Donc, c'est la conscience de la mort, quand on parle de la conscience de la mort chez nous en Occident, ça ne sonne pas comme dans le soufisme, ça ne sonne pas comme dans l'hindouisme, ça ne sonne pas comme chez les Amérindiens. Ou je pense que notre notion de la mort, par exemple, Nisargadatta Maharaj, que j'aime beaucoup, une de ses phrases, donc c'est un sage indien presque contemporain qui est mort il y a quelques dizaines d'années, de la tradition de la non-dualité, l'Advaita, une de ses phrases, il disait « c'est pas important que le corps vive longtemps ». Oui, c'est une autre perspective sur la mort, parce que il y a une autre interprétation de ce qu'est, ce veut dire être vivant. Il y a une autre identification au corps et à l'esprit. Il y a un autre narratif à propos du corps et de l'esprit. Il y a une autre manière d'interpréter toute cette histoire. Il n'empêche que, pour nous, déjà, une chose qui est très présente pour moi, c'est de savoir que, en fait, parfois je le sens comme ça. Je me dis que peut-être le jour où je vais mourir, je vais me dire, oh merde, alors c'était que ça. Oh, alors, ah, c'est ça, en fait. Ah, tout ça pour ça? Peut-être. Peut-être. Vous voyez, peut-être que ça pourrait. Ça pourrait. Ça pourrait être tout autre chose que tout ce qu'on imagine. Mais quoi qu'il en soit, la conscience de la mort, la conscience de la finitude, donne de l'importance à chaque chose vécue. De l'importance à nos choix. De l'importance à, sachant que le temps est compté, où est-ce qu'on met notre énergie? À quoi est-ce qu'on donne de l'importance? Qu'est-ce qu'on valorise? Et plus on a cette conscience, plus on va faire les choix qui sont en accord avec nos aspirations profondes, plutôt que en accord avec nos désirs superficiels. Et la conscience de la mort, c'est vraiment quelque chose qui peut se pratiquer tous les jours, au quotidien, et il suffit de s'en rappeler, en fait. Et on peut voir ça à travers toutes les petites morts, de considérer chaque moment comme un moment qui existe par lui-même et puis qui meurt l'instant suivant. De considérer chaque visite d'un ami comme un moment unique. C'est pas encore une visite d'un ami, c'est un moment unique. Et puis quand il va partir, ce moment est mort et n'existera plus jamais. En fait, on peut voir tous les éléments de notre vie mourir les uns après les autres. Et du coup, ça donne de l'importance à ce que dans chaque moment, ça nous donne envie d'incarner quelque chose de profond plutôt que quelque chose de superficiel. Un passage d'un livre de Michel Foucault qui s'appelle, c'est une exploration sur l'herméneutique du sujet, donc la manière, l'herméneutique du sujet, déjà je trouve le titre magnifique. L'herméneutique, c'est la manière de donner un sens. Au départ, c'était un terme religieux, donc c'était la manière dont on interprète un texte. Et puis, dans la spiritualité, l'herméneutique est devenue, en fait, la manière dont on fait sens d'une perception. Et ça peut aller, du coup, en science, comment une perception est reçue et interprétée. Bref, donc l'herméneutique du sujet. La manière dont on s'interprète soi-même, la perception, la sensation d'exister. La sensation d'exister est interprétée très différemment suivant les cultures. Et là, dans ce passage, donc je vous le dis, nous pouvons dire que la notion de vérité, donc là, il questionne la notion de vérité. En fait, il suit l'évolution de la notion de vérité, ce qu'on entend par le mot vérité. Nous pouvons dire que la notion de vérité entre dans sa période moderne, que lorsque la notion de vérité entre dans sa période moderne, elle suppose que ce qui donne accès à la vérité, la condition d'accès du sujet à la vérité, c'est la connaissance, et la connaissance seule. C'est-à-dire que le scientifique, le philosophe, ou simplement quelqu'un qui cherche la vérité, peut reconnaître la vérité et y avoir accès en lui-même par le seul axe de sa connaissance, sans que rien d'autre ne soit exigé de lui, sans que cela n'altère ou ne change quoi que ce soit son être en tant que sujet. Donc ce que Michel Foucault dit, c'est que de nos jours, on imagine qu'on peut acquérir la connaissance et la connaissance la plus profonde, la connaissance la plus spirituelle, la connaissance de notre idée profonde, juste par l'observation, sans qu'il n'y ait rien ne soit demandé de nous-mêmes, aucune transformation. Et ça, c'est nouveau. Avant, pour pouvoir accéder à une connaissance plus ultime, à une connaissance plus sacrée, à une connaissance plus profonde, il fallait se transformer soi-même aussi. Et ça, c'est la notion d'éthique. Il fallait, si on prend par exemple la notion de la chevalerie cette notion de connaissance, la notion de chevalerie, il y avait cette notion de connaissance et d'accès au sacré, d'accès à quelque chose de plus ultime, mais à travers une certaine purification d'esprit, une manière d'être avec dans laquelle il y avait la noblesse, la justice, dans laquelle il y avait l'engagement, par exemple, à défendre le pauvre et le faible, et sans peur de perdre sa vie. Il y avait en fait une nécessité de se transformer soi-même, que le sujet se transforme, parce que quand le sujet se transforme, il voit différemment. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Quand le sujet se transforme, il voit différemment. Nous avons besoin, nous n'arriverons pas à, si nous ne nous transformons pas, c'est-à-dire si nous ne marchons pas sur notre chemin d'éthique, si nous ne prenons pas en main nos aspirations profondes qui sont des aspirations de justice, d'amour, d'ouverture, mettons que nous n'y travaillons pas, mais que nous travaillons juste à l'étude des textes et au fait de calmer l'esprit et de connaître à travers la direction, en dirigeant notre attention, nous ne pourrons pas accéder à ce que nous cherchons parce que nous, en tant que sujet, ne nous transformons pas. Et le sujet, en changeant, perçoit différemment. Extraordinaire. Extraordinaire, absolument. Et on comprend alors pourquoi le Bouddha mettait sur le sentier octuple 3 des 8 points. Il dit, il y a 8 directions dont il faut prendre soin pour trouver le chemin de la liberté. Et 3 de ces 8 directions sont des directions d'éthique. Et Rumi dit quelque chose d'un peu similaire quand il dit, le discernement s'enfuit loin de celui qui est ivre de vain désir. Le discernement, la capacité de voir clairement, s'enfuit loin de celui qui est ivre de vain désir. Ce qui veut dire que tant que nous, autant nous réussissons à laisser nos vains désirs derrière nous, au plus nous nous transformons, au plus nous sommes capables de voir sainement en fait ce qui se passe, d'avoir une vision claire sur notre nature profonde. On ne peut pas accéder et voir et faire l'expérience de notre nature profonde tout en continuant à nourrir de vains désirs. Donc le chemin de notre recherche de liberté, le chemin de notre recherche d'amour, implique aussi, en plus de la méditation, en plus de l'étude, en plus de la pratique de la bienveillance, implique la transformation de nous en tant que sujet pour être plus en accord avec ce que profondément on sait déjà qui est important. Tout ça, c'est une seule et même chose, en fait. Indissociable. On sait avoir le temps cette fois-ci, mais je ne l'aurai pas, donc je l'amènerai la prochaine fois. Mais je voulais aussi amener, et donc je vais juste le nommer, je voulais aussi amener comment dans notre culture actuelle, nous n'avons pas facilement accès à la sensation de comment les choses peuvent être sacrées. Nous n'avons pas par défaut dans notre esprit un regard dans lequel le sacré peut exister. Cette vision ultra-matérialiste et utilitariste de chaque chose et presque de chaque personne dans cette culture ne laisse pas le cadre conceptuel pour que l'importance de quelque chose de une autre vision sur toutes les choses qu'on côtoie soit aussi possible et puisse être concomitante. Les choses sont utiles, mais elles ont aussi une place qu'on peut on peut les aussi relationner à toutes choses très différemment. Et pour ça, je pense qu'il faut comprendre notre culture. Et il faut comprendre ses manques. Et on peut comprendre les manques de notre culture en regardant d'autres cultures et en essayant de voir à travers leurs yeux, de comprendre leur regard. Et on peut alors toucher et faire l'expérience de quelque chose qu'en fait on connaît déjà mais qu'on ne voit plus. Parce que on n'a plus le cadre conceptuel pour en faire l'expérience. Parce que de vivre de nouveau en conscience du mystère, de vivre de nouveau avec la sensation de subtilité, de profondeur, d'une profondeur qui nous échappe de tout ce qui nous entoure en fait, va vraiment participer, je pense, à nous aider à nous sentir beaucoup plus nourris avec beaucoup moins de choses et changer très fort notre relation au désir. Je vais lire un dernier passage de Rumi. C'est pas de Rumi en fait, c'est de Henri Corbin, qui est un philosophe français qui a étudié l'islam chiite, principalement, parce qu'il est fondé sur les enseignements sociaux et juridiques de l'islam, le soufisme doit être pratiqué à l'intérieur de la société, et non pas dans un environnement monastique hors de la société. Mais les attitudes de la vie monastique sont intégrées dans la vie de tous les jours, vécu à l'intérieur de la communauté humaine. Le soufisme est le monde d'intégration de la vie active et de la vie contemplative. Alors là, c'est une longue phrase, accrochez-vous, mais je vais la relire. Le soufisme est le mode d'intégration de la vie active et de la vie contemplative de façon à ce que l'homme soit capable de demeurer réceptif intérieurement aux influences du ciel et de mener une vie intérieure contemplative intense, tout en demeurant extérieurement très actif dans un monde qu'il façonne en accord avec sa nature spirituelle profonde, au lieu de devenir son prisonnier, comme il arrive à l'homme profane. Je relis tout le passage. Parce qu'il est fondé sur les enseignements sociaux et juridiques de l'islam, le soufisme doit être pratiqué à l'intérieur de la société et non pas dans un environnement monastique hors de la société. Mais les attitudes de la vie monastique sont intégrées dans la vie de tous les jours, vécues à l'intérieur de la communauté humaine. Le soufisme est le mode d'intégration de la vie active et de la vie contemplative, de façon à ce que l'homme soit capable de demeurer réceptif intérieurement aux influences du ciel et de mener une vie intérieure contemplative intense, tout en demeurant extérieurement très actif dans un monde qu'il façonne en accord avec sa nature spirituelle profonde, au lieu de devenir prisonnier, comme il arrive à l'homme profane. Capable de demeurer réceptif intérieurement aux influences du ciel, c'est ce que je voudrais qu'on explore dans la prochaine retraite d'un jour. Mais on peut déjà y entendre capable d'être de vivre en accord avec ses valeurs profondes, avec ce qui dedans déjà sait, ce qui doit être respecté, ce qu'on veut vraiment, les qualités et les capacités profondes qu'on voudrait incarner dans cette vie. Donc le soufi vit dans le monde des plaisirs et des désirs, en gardant, en restant en accord au mieux avec ses valeurs profondes. Et il va être à même de faire ça, c'est ça que nous verrons, parce que il a un regard, il voit dans toute chose le sacré. Il travaille à rendre, à ramener du sacré dans sa perception. Quand on pratique la bienveillance, on ramène de la bienveillance dans notre perception. Quand on prend conscience de notre finitude, on amène la conscience de la mort dans notre perception. Quand on pratique la conscience de la permanence, on voit la permanence, elle est là dans notre perception. Quand on pratique le regard en ramenant la conscience du mystère, alors on vit avec le sacré. Merci pour votre écoute.
Et un petit mot de la fin. Soutenu par l'association Dharma Nature, je fais le choix de proposer ces discours de façon libre et non commerciale. Si vous appréciez les écouter, s'ils vous sont utiles, pensez à nous soutenir de temps en temps avec un don que vous pouvez envoyer depuis le site www.dharmanature.org. Sachez qu'aucune somme n'est trop petite, car votre démarche exprime votre considération et ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une belle journée et une belle pratique.